Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, haut les cœurs, même si c'est pas la joie, on va pas se mentir. Pour dire vrai, c'est quand même à ça que s'apparente le sentiment de vous retrouver chaque jour à l'heure où notre prochain nous manque tant. Alors en attendant le temps revenu de nos étreintes, eh bien ici on parle, on réfléchit, on disserte chaque jour en direct entre 14h30 et 15h30 sur RTL, mais également sur RTL.fr. Je vous attends comme chaque jour au 3210 et sur nos réseaux sociaux. On nous le raconte comme le point d'orgue de la vie et de l'épanouissement, de devenir parent, et pour la majeure partie d'entre nous, et quand nous avons la chance de le pouvoir, un immense bouleversement dans tous les sens. Mais épuisons-nous vraiment une joie incommensurable? Être parent est-il aussi épanouissement... Être parent est-il aussi épanouissant, lapsus qu'on veut nous le faire croire? Avons-nous idéalisé la parentalité? Et si nous acceptions aussi de ne pas avoir des enfants parfaits? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un homme. Alexandre Marcel, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous avez 33 ans, vous êtes papa d'une petite Ambre qui a 2 ans et vous êtes auteur du blog Papa Plume, très suivi. Et de ce livre, je vous avais dit un jour, je vous recevrai quand vous aurez écrit votre livre, je ne m'attends pas à ça aux éditions Larousse. À quoi ne vous attendiez-vous pas? Qu'est-ce qu'on ne vous avait pas dit?
À peu près tout.
C'est ça.
On s'attend pas à grand. Enfin, on s'attend à tout et à la fois on est toujours surpris.
Ouais.
C'est un peu ce que je dis dans mon livre, quoi. C'est qu'on peut se préparer. Moi, pendant la grossesse, je me suis beaucoup préparé. J'ai lu des bouquins, on a fait l'autonomie.
Vous l'avez vécu, hein, intégralement, la grossesse.
Vécu intégralement.
Vous êtes un papa d'aujourd'hui.
Mais en fait, on s'apprend. On se prépare pas à surfer un tsunami, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc, on a beau se préparer, on est toujours surpris, je pense.
On ne s'attendait pas à ce grand bouleversement, cette révélation d'amour,
ouais.
Et en même temps à tout ce qui va avec l'éducation d'un enfant, les inquiétudes, la fatigue,
les jets de pipi sur la chemise, les purées jetées sur le sol, il y a tout un tas de petites surprises qui viennent, les nuits blanches,
ouais,
qui épuisent, qui éreintent, qui font devenir fou.
Ouais.
Donc c'est un bouleversement total des sens, c'est la vie qui se ressente. C'est moi, la métaphore que j'utilise dans mon livre, c'est on est sur une nouvelle planète, quoi,
ouais,
avec une nouvelle étoile autour de laquelle l'existence orbite.
Ouais.
Moi, c'est ma fille, donc tout s'organise autour d'elle.
Et encore, elle n'a que 2 ans.
Et elle n'a que 2 ans.
Parce que d'expérience, je peux vous assurer que ça dure quand même un sacré bout de temps. Bonjour Nicole Prieur.
Bonjour Flavie.
Ça me fait plaisir de vous voir, Nicole. Soyez la bienvenue dans ce studio. Vous êtes philosophe, vous êtes psychothérapeute, auteur de différents ouvrages, notamment aussi sur la famille,
bien
dont
sûr.
L'hypnose pour simplifier les relations familiales, que je vous offrirai à la fin de cette émission, mon cher Alexandre. Vous n'en avez pas fini avec l'éducation des enfants. 3 exercices audio à télécharger, ça on le retrouve chez Pocket. Nicole Prieur, il n'y a pas d'école à la parentalité?
Absolument pas.
Mais ce qui est dingue, c'est que s'il n'y a pas d'école, pardonnez-moi, on nous apprend, les gestes un peu de base, et après on est lâché en pleine nature sur cette nouvelle planète dont nous parle Alexandre Marcel.
Tout à fait, et surtout au jour d'aujourd'hui, je veux dire, les parents d'aujourd'hui ont tout à réinventer. Les nouveaux pères comme vous, les mères aussi, je veux dire, le couple parental, et c'est vrai que l'arrivée d'un enfant, c'est une merveille, il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là, mais ça bouleverse tout. Ça bouleverse notre identité, ça bouleverse l'équilibre du couple qui doit faire une place à l'autre, ça bouleverse l'enchaînement des générations, et ça nous pose un certain nombre de questions, ça nous renvoie à une responsabilité. C'est vraiment quelque chose qui interpelle tous les registres de notre existence. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. On reste sur l'image de la
voilà,
mère, du
qu'on
merveille.
Nous dit voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous raconte?
En général, je crois qu'on idéalise. C'est vrai qu'on suridéalise la parentalité. Et je pense que là, tous les couples que j'ai reçus, que je reçois encore, ne mesurent pas. Et alors, quand ils retombent bien sur leurs pieds, tout va bien. Mais quelquefois, ça met en cause le couple, ça met en cause la position, encore une fois, dans la famille. Ce n'est pas facile d'être jeune parent devant des grands-parents qui ont quelquefois tendance aussi à raconter en fait ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, etc. Donc, il y a vraiment toute une réorganisation des liens sur beaucoup de plans. En tant que femme, est-ce qu'on continue à travailler? De quelle manière? Tout ce qui nous constitue est interrogé.
Alors là, vous parlez de ce qui nous constitue, effectivement, et du bouleversement que ça représente, mais est-ce qu'on peut se lever un matin et ne plus en avoir envie. C'est un petit peu, c'est de la provocation ce que je vous dis, mais est-ce qu'on peut se dire, ouais, bah, c'est beaucoup plus difficile que je l'imaginais, c'est pas rigolo d'être parent, j'en ai ras-le-bol d'être parent, j'aimerais bien laisser mes enfants quelques temps, là, et puis qu'ils reviennent après, mais le temps que je me repose et que je me refasse, au-delà même de l'organisation, est-ce qu'on peut se lever un matin en se disant, bon, alors, moi, on m'avait raconté autre chose et, voilà.
Tout à fait.
Voilà, on a le droit de le penser.
On a le droit.
Voilà, c'est ça que je voudrais qu'on
c'est
dise.
C'est ça. Alors, je ne vais pas parler de mon expérience, mais j'ai trois garçons, dont un qui s'appelle Alexandre et qui va avoir bientôt 50 ans. Donc, imaginez l'expérience que j'ai. Et effectivement, combien de fois je les ai vus partir en colo ou en vacances, etc.
En
me disant, ouf, je vais respirer. Au bout de quelques jours, on s'ennuie. Mais je pense que c'est sain de se le dire parce que du coup, on ne culpabilise pas. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que l'envie de les revoir, l'envie de
Oui, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on leur porte. Sauf qu'il y a des moments où on peut dire qu'on en a ras-le-bol.
Mais c'est épuisant.
Okay.
C'est une merveilleuse aventure, mais c'est épuisant.
Est-ce que ces deux années de prise de conscience de différentes choses dont on va parler, Alexandre Marcel, puisque Ambre est encore toute petite, vous ont permis aussi, quelque part, d'être plus clairvoyant sur l'avenir? Est-ce que ça vous choque, par exemple, quand je vous dis, il y a des matins, alors, je suis peut-être une mauvaise mère aux yeux de nos auditeurs, quoique Émilie va nous rejoindre dans un instant, il y a des matins, on n'a pas envie, on en a ras-le-bol. Est-ce que ça vous choque, vous, qui êtes un jeune papa?
Non, je le comprends complètement en fait. Moi, de par mon expérience et puis aussi de par toutes les discussions que j'ai avec ma communauté, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que Nicolas dit qui est hyper important, c'est aujourd'hui la multiplication et le nombre des sources d'informations pour les parents. On est perdu. Je veux dire, il y a un nombre de livres, un nombre de podcasts, il y a la famille.
Bon, nous, on se tapait père nous à la maternité, avec des vieilles méthodes en plus.
Il y a tellement de sources d'informations. D'un côté, on va avoir la grand-mère qui dit non, mais faut le laisser pleurer. De l'autre, on a toutes les neurosciences qui nous disent mais non, c'est. Mais à un moment, les parents, ils sont perdus et ils savent plus quoi faire, quoi. Donc il y a des ouvrages qui sont formidables. Moi, j'ai lu Catherine Guéguin, j'ai lu Isabelle Filioza. Donc, et quand les parents me posent des questions, j'essaie de les orienter vers ce genre d'ouvrage parce que je les trouve hyper intéressants aux yeux de la science moderne. Mais on peut être complètement perdu et ne pas savoir exactement ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour les enfants, ce qui est bon pour nous aussi.
Alors, on va se retrouver dans un instant, on va en parler, parce que moi je me suis demandé aussi plusieurs fois si on ne psychologisait pas assez l'éducation des enfants.
Trop.
Non mais voilà, donc merci.
Ça vient de la part
parce que non mais c'est hyper important parce qu'effectivement je me mets à la place de ces jeunes parents là aujourd'hui, on est dans une sorte de presque d'angoisse de faire mal et on est dans une sorte de psychologie permanente sur un rôle qui est presque animal, je dirais. Il y a de l'éducation, il y a de l'inné. Voilà, les choses sont différentes. On va accueillir Émilie dans un instant. Quand on lui demande si c'est pour elle le rôle le plus épanouissant de la vie, elle dit pas du tout. Elle va nous expliquer ça dans un instant. Mais moi, j'aime bien ces émissions où on se dit la vérité, c'est pas grave, on les aime, nos enfants. Mais libérons-nous un petit peu aussi de tout ça. À tout de suite sur RTL.
La vie flamand sur RTL. La vie flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Est-ce qu'on serait pas un peu en train d'idéaliser le rôle de parent? Est-ce qu'il est grave, docteur, de dire « j'en ai marre, c'est pas forcément ce que j'avais entendu, c'est pas forcément ce que je croyais, c'est pas forcément ce que j'avais prévu ?» Parce que c'est vrai qu'il y a tout le bonheur de l'attente d'un enfant, et puis après, on est dans une forme de réalité, on est sur une autre planète, comme vous le dites si bien, Alexandre Marcel. Vous êtes notre invité, vous êtes papa d'une petite Ambre, à vos côtés Nicole Prieur, qui est maman et grand-mère. Je peux le dire, Nicole?
Ah oui, tout à fait, 5 petits-enfants.
5 petits-enfants. Mais qui est également philosophe et psychothérapeute. Alors des messages évidemment qui nous arrivent. Yehou nous écrit, épanouissant, je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas préparé à l'après-accouchement. On devrait avoir des cours de préparation renforcés. Jusqu'aux 2 ans de ma fille, ça a été un peu la lutte pour le sommeil, pour l'équilibre familial, etc. C'est très éprouvant. Ça n'enlève pas la joie de les avoir, évidemment. Et on savoure chaque moment avec eux. Mais les débuts, surtout quand c'est le premier, sont parfois chamboulants. Et puis, c'est vrai que Christelle nous écrit, c'est à la fois le plus beau des rôles et le plus angoissant. Voilà, être parent, c'est aussi finalement éprouver des sentiments paradoxaux, Nicole Prieur.
C'est clair. Vous parliez d'amour tout à l'heure, mais effectivement, je pense que ce qui va toujours de pair, et je ne veux pas vous inquiéter, mais ça dure.
Ouais, bah allez-y.
C'est la peur.
Ah, mais attends,
on a toujours.
Et elle évolue,
peur.
Elle n'est jamais la même en fonction de l'âge des enfants. On n'a pas peur des mêmes choses.
On n'a pas peur des mêmes choses.
Ouais,
on a peur. On a peur aussi, vous parliez de mes petits-enfants. On a peur pour nos petits-enfants,
bien sûr.
Je veux dire.
Bah, pour les gens qu'on aime, quoi.
Bien sûr. Je veux dire, et l'amour, effectivement, c'est une dialectique, si j'emploie un mot philosophique. C'est effectivement. Les deux extrêmes sont là. Et par contre, c'est vrai que ce n'est peut-être pas toujours épanouissant, mais ça nous rend vivants. Ça nous rend curieux, ça nous fait bouger, ça nous fait grandir, ça nous apporte énormément
Alors, on se disait il y a un instant, on n'est pas préparé parfois. On nous dit, tu vas voir, c'est la plus belle des choses. Effectivement, c'est absolument magnifique, on est d'accord. Mais parfois, c'est aussi difficile. Émilie, elle a entendu son cousin lui dire, bah, tu verras, c'est pas que du bonheur. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Moi, je pense
Merci.
Déjà qu'être un bon parent, c'est être un parent libéré des injonctions, je dirais, qui découvre un peu aussi son rôle à l'instinct. Et puis, c'est être un parent libéré de la culpabilité. Or, j'adore savoir que vous avez donc deux enfants, Thibaut et Louise, et qu'à la question, est-ce que c'est effectivement aussi épanouissant qu'on voudrait nous faire croire, vous répondez pas du tout.
Oui, je réponds pas du tout et je remercie encore mon cousin aujourd'hui de ce qu'il m'a dit. Il faut du temps pour le comprendre, il faut du temps pour l'admettre aussi, mais comment dire ?
Dites-le.
À partir du moment où on essaye de faire de notre mieux, je pense que déjà on est un bon parent. Il y a une
C'est
logique
vrai.
De s'améliorer, on n'a pas les codes, on n'a pas le mode d'emploi, on doit s'adapter au caractère de notre enfant aussi. Moi je suis devenue maman en me disant je vais perpétuer l'éducation qu'on m'a donnée, les valeurs, les principes, et puis ben, je ne peux pas faire la même chose puisque mes enfants ont des caractères complètement différents de la fratrie dans laquelle j'ai grandi. Donc déjà rien que ça, ce n'est pas applicable.
Et est-ce qu'il vous arrive certains matins d'en avoir marre ?
Oui, je ne vais pas dire le contraire. Ouais. Je pense qu'il y a énormément de parents qui doivent se reconnaître là-dedans. Ouais. Après, comme je disais, je pense que ce n'est pas évident de l'admettre. Il y a une grosse part de culpabilité par la société d'aujourd'hui, par les réseaux sociaux, où on montre, on voit de la vie à paillettes hein, un petit peu partout. Et ce n'est pas la réalité, en fait. La réalité, c'est de s'énerver, c'est de ne pas toujours être patient comme on voudrait l'être, parce qu'on a eu une journée de travail, parce qu'il y a tout un contexte qui fait qu'on n'est pas toujours le parent qu'on voudrait.
Alors, le parent que vous vouliez être, et puis ce que vous aviez pu entendre aussi et recevoir du monde extérieur sur la maternité, sur la parentalité, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez aussi avec votre mari ?
Oui, on a eu des très grosses remises en question. Puis nous, on a la particularité d'avoir notre aîné qui est diagnostiqué hyperactif.
Ouais. Depuis deux
donc
ans.
On a dû complètement changer notre façon de voir, notre façon de le comprendre, notre façon de l'écouter. Et puis là, pour le coup, il y a une grosse culpabilité. On s'est dit qu'on n'était pas des parents en adéquation avec l'enfant qu'on avait en face de nous.
C'est-à-dire que le fait d'avoir ignoré pendant 6 ans, effectivement, que Thibaut était hyperactif, vous avez le sentiment d'avoir commis peut-être certaines, alors je mets d'énormes guillemets parce que c'est pas l'état d'esprit de la maison, mais certaines erreurs, vous auriez aimé agir autrement
oui.
en fonction de ce qu'il était. C'est ça, c'est la culpabilité
oui,
de
oui,
ne
oui.
pas avoir
mais,
su.
Tout ouais, à fait. Mais moi, je le qualifie d'erreur parce qu'effectivement, on a quelque part le cœur et le sixième sens, parce que la nature est quand même bien faite, qui nous dit qu'il y a quelque chose. Mais tant qu'on n'a pas les mots, tant qu'on n'a pas l'explication, tant qu'on n'a pas la compréhension de ce qu'on a en face de nous, c'est compliqué de s'y adapter de la meilleure façon.
Il faut savoir se le pardonner, ça aussi.
Oui, et ça prend du temps.
Je comprends. Alors, je vous rassure, hein, on a tous ça, hein. D'une façon ou d'une autre. Vous savez, moi, je suis une passionnée de listes, hein, j'arrête pas de faire des listes, et j'ai fait la liste de mes regrets, ce qui fait beaucoup rire mes fils. À vous aussi.
J'adore.
Fait beaucoup rire mes fils, parce qu'ils me le remettent, évidemment, dans les dents régulièrement. Et alors, ils sont beaucoup plus grands que les vôtres, mais ils ont 16 et 25 ans, et régulièrement, ils me disent, mais tu sais, il y a eu ça, jamais sur le ton du reproche, mais pour alimenter ma liste des regrets.
Mais je l'ai, mais je la mets en parallèle avec une liste de gratitude aussi.
Moi aussi, évidemment. Mais de se dire, ah bah tiens, ce jour-là, voilà, quand j'ai raté la petite pièce d'un euro parce que j'avais plein de problèmes
oui.
et que j'ai pas pensé à laisser la petite pièce d'un euro pour cette fameuse dent de lait, et qu'Antoine est revenu 6 mois après pour me dire, tu sais, maman, la petite souris, elle est pas passée cette nuit-là avec un énorme clin d'œil, et c'était il y a 6 mois, eh bah, ça me tord le bide. Donc j'imagine quand il s'agit de choses plus importantes. Mais il faut peut-être accepter aussi, justement, le fait de ne pas être un parent parfait et d'avoir commis des erreurs. C'est peut-être la meilleure façon, je dirais, Nicole Prieur, de se le faire pardonner par nos enfants.
Mais
aussi.
Pense, oui, dans ce que vous dites, je pense qu'il faut surtout être capable d'entendre les reproches de nos enfants.
Oui, oui.
Parce que c'est
et
ça qui va nous faire grandir.
Vous allez voir, ça continue.
Ça vient, hein. Oui, ça vient. Ouais, et ça vient à tous les âges.
C'est que le début.
Mais c'est vrai
ouais.
qu'il faut les entendre, justement, non pas pour se sentir coupable, parce que ça ne sert strictement à rien, mais pour se dire comment je vais réparer ça, comment je vais arranger ça, comment je vais transformer ça. Et c'est là où les enfants. Où c'est là
et
où
parfois,
cette aventure.
On ne l'arrange pas, on dit, bah voilà, je suis désolée.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Enfin, notre rôle n'est pas de toujours rattraper nos erreurs.
Non, mais de transformer justement notre position, de transformer, de plus entendre nos enfants. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Mmh. Parce qu'ils perçoivent quelquefois beaucoup plus de choses. Ils sont, vous parliez tout à l'heure d'animalité. Ils ont un sens de la relation beaucoup plus pertinente quelque part que nous. Ils sont plus spontanés. Donc ils sentent là où on a faux et quelquefois ils nous le disent à leur manière. Et du coup, ça nous fait bouger.
On va se retrouver dans un instant. Émilie, vous voulez bien rester avec nous? Je voudrais qu'on parle de cet instinct. Parce qu'effectivement, avec Alexandre Marcel tout à l'heure, on se disait qu'il y avait beaucoup de livres, beaucoup de sources sur les réseaux sociaux qui nous racontent comment élever nos enfants. Est-ce qu'à un moment donné, être un jeune parent aujourd'hui, comme vous l'êtes tous les deux, ça n'est pas essayer de naviguer entre des injonctions et finalement perdre cet instinct en cours de route? Ce sera dans un instant sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Quand on devient parent, c'est pour la vie entière. Quel que soit l'âge de son petit, nous écrit Monique. Mais comme vous avez raison. On dit toujours, Nicole Prieur, petit souci, petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci.
C'est clair.
Hein, voilà, c'est ce que nous disaient nos parents. Hein, ça passe. Vous l'avez déjà entendu, ça?
Non, mais petit enfant, grand souci aussi, parfois.
Ouais, mais alors, mais c'est parce que. Tu verras. Vous verrez avec le temps. Non, mais c'est très drôle parce que j'ai l'impression qu'on est tous des parents autour d'une table. Il y a Émilie, d'ailleurs, qui est autour de la table avec nous et qui témoigne. Mais c'est vrai que vous les avez éprouvés, vous, Émilie, les inquiétudes vont grandissant et changeant en fonction de l'âge de notre enfant.
Ah oui, et puis le fait de se réadapter du coup à chaque fois sur les nouvelles informations qu'on nous donne, quoi.
Alors justement, parlons-en de ces informations. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Émilie, que l'on perd... Alors, je ne sais pas si vous avez été traversée par ça, mais moi, quand je regarde aujourd'hui la façon dont j'ai été élevée, la façon dont j'ai élevé mes enfants et la façon dont vous, jeunes parents, élevez les vôtres, je m'interroge sur l'instinct. C'est-à-dire se faire confiance à un moment donné et avoir un geste qui nous vient, un geste ou une pensée, en tout cas, qui nous vient immédiatement, sans pour autant qu'on ait à se référer à Internet ou au livre de parentalité.
Je pense pas qu'il y ait de déclic ou quoi que ce soit par une lecture ou par quelque chose. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est des choses qui se vivent sur l'instant. Moi, j'ai vécu une situation de danger de mon fils qui a trouvé une vipère et qui m'a appelée à ce moment-là alors qu'il ne parlait pas. Et l'instinct m'a dit, c'est pas un maman comme d'habitude, il faut y aller et il faut y aller vite. Donc, il y a des choses qu'on n'explique pas. Ouais, par contre, je pense qu'aussi, il faut accepter que tel best-seller sur la parentalité ne nous correspond pas, qu'on peut piocher des choses d'un côté et en réfuter d'autres. Il n'y a pas de manuel parfait et je pense qu'il y a une grande personnification à faire de toutes ces informations. Il faut les digérer, il faut les adapter à notre environnement, au caractère de nos enfants et à notre caractère à nous.
Alexandre Marcel.
Moi, je crois qu'on fait de son mieux, en fait. Oui, il y a beaucoup de sources d'informations, c'est parfois compliqué de s'en sortir, mais en fait, comme vous le dites, l'instinct est là, quoi. Nous, notre fille, quand elle était nourrisson et qu'elle pleurait, on se disait, en fait, juste, elle a besoin de nous, quoi. Elle a besoin de nous, donc on a fait le cododo pendant 6 mois.
Alors, cododo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dormir avec son bébé.
Voilà, elle avait un petit matelas qui était collé au nôtre. Alors, il y a des sites qui vont vous dire, ou des livres qui vont vous dire, oui, c'est très bien, voilà. D'autres qui vont vous dire, non, faut quand même qu'il apprenne à se détacher. Et puis, à un moment, en fait, juste, il y a l'instinct maternel et l'instinct paternel, parce que l'instinct paternel, il existe autant que l'instinct maternel. Notre petite, elle est là, elle a besoin de nous, on s'adapte et on est là pour elle, quoi.
Nicole Prieur.
Oui, et je crois que c'est ça qui est intéressant de mettre en évidence, c'est que c'est dans ce que vous appelez, ce qui est effectivement de l'ordre de notre animalité, hein, cet instinct-là, c'est là que l'on va créer vraiment un lien très spécifique à notre enfant. C'est là où quelque chose de particulier, d'unique à notre famille, j'ai envie de dire, à notre lien, va se tisser. On se regarde mutuellement, on apprend à se connaître mutuellement, lui se cale aussi par rapport à nous, lui va sentir nos angoisses, notre tranquillité. Le lien, c'est vraiment dans ces contacts très physiques, très sensoriels, très, très instinctifs, j'ai envie de dire, on se renifle quelque part. Hein, et c'est là où vraiment on va créer un lien qui va résister aux engueulades, au fait qu'il ne va pas forcément être bon élève comme on le voudrait, etc. Ce lien, il est créé par tout ce qui passe presque de corps à corps. C'est indispensable. Alors, on peut effectivement entendre des conseils des uns et des autres, mais surtout, vraiment, les tamiser, enfin, je veux dire, dans le sens où les trier, et je pense que tout à l'heure on parlait de culpabilité ou de rôle, etc. J'adore l'expression de Winnicott, vous savez, le premier psychanalyste qui a travaillé avec les enfants, qui dit on demande seulement aux mères, il parlait des mères seulement à l'époque, d'être suffisamment bonnes. Ça suffit. On ne peut pas être autrement que à peu près bon ou à peu près bonne. Mmh. C'est tout. C'est effectivement faire de votre mieux, point. De toute façon, les enfants nous feront des reproches.
L'aspect corporel est tellement important. C'est moi, je me souviens des moments mais qui resteront gravés à jamais à la maternité, quand on m'a posé ma fille pour la première fois, qu'on a fait du pot à pot. En fait, dès que ça devient dur, il y a des soirées, ça part en vrille complètement. Il y en a partout. Je regarde, elle a jeté sa purée, elle hurle. Je comprends pas. Je dis mais Ambre, qu'est-ce que t'as ? Et bon, tout est confus dans ma tête. J'ai l'impression de pas m'en sortir, vraiment de boire la tasse. Ben, je laisse passer la tempête, j'essaie de gérer comme je peux, et puis après on va prendre le bain, on a un moment à deux, je la regarde au fond des yeux et je me dis non mais en fait
je comprends tellement.
C'est un truc, c'est complètement inexplicable et je la prends contre moi et on s'apaise tous les deux comme ça et quand je plonge dans son regard, je la vois elle, et il se passe un truc qui est hors du temps et limite j'oublie ce qui s'est passé avant.
C'est ça.
Et puis le lendemain ça repart quoi. Mais on se nourrit de cet amour quoi.
Vous avez vécu ça, Émilie, où c'est la nuit, ils ont besoin de nous, ils se réveillent, c'est l'heure du biberon ou de la tétée et on est là, on est ce que mon fils Enzo appelle l'encéphalorectomie, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Et on est dans un couloir et on se dit je ne veux pas y aller, j'en ai marre, j'en ai ras le bol, et tout à coup on croise leur regard et là il y a un truc qui se passe.
Ça me parle. Moi, j'ai pas dormi pendant 3 ans avec ma seconde. Hein.
Ouais. Mais vous aviez tout à coup ce regard, effectivement, ce que raconte Alexandre, c'est-à-dire cette évidence et la fatigue qui s'évapore.
Il y a une connexion qui se fait et qui nous apaise et qui sait pourquoi on est là, qui sait pourquoi on s'est levé, qui sait que la petite personne qu'on a en face de nous, elle a besoin de nous plus que tout. Et effectivement, on a une capacité d'oubli dans ces moments-là.
Ouais. On est plus fatigué.
Ce que j'ai ressenti, moi, c'est que moi, je me suis levée minimum 5 fois par nuit pendant 3 ans, sans savoir pourquoi. Parce que ma fille faisait des terreurs nocturnes et en fait, on ne l'a jamais su. On l'a su quand ça s'est arrêté. Et donc, pendant 3 ans, je n'ai pas compris, je ne trouvais pas de solution, j'étais épuisée. Ça a été très difficile. Par contre, on a une capacité d'oubli qui est formidable, c'est-à-dire que les nuits sont dures, mais les journées se passent bien. Parce que l'enfant est bien, parce qu'on n'est pas dans une situation de stress. Et du coup, on oublie et on se réénergise pendant cette journée pour réattaquer la nuit suivante, en fait.
Oui, c'est ça.
Ce qui n'est pas toujours possible.
Non, c'est vrai que ce n'est pas toujours possible. Mais Flavie, vous parliez des listes tout à l'heure. Moi, je sais qu'il y a eu aussi un moment où moi aussi, il y a eu des moments où ça part en vrille. J'ai fait la liste des bêtises de mon fils. Qu'il ne fait pas de sa faute, bien évidemment, par entrain, par inadvertance, par tout ça, mais juste un jour pour pouvoir matérialiser que oui, j'avais le droit d'en avoir marre, que j'avais le droit d'être fatiguée.
Et vous avez parfaitement raison.
Et ça m'a fait un bien fou, en fait.
Moi, j'en ai écrit un livre.
Je devrais y songer.
Vous devriez y penser, puis vous viendriez justement dans ce studio, Émilie, pour nous en parler. En tout cas, je vous remercie d'en parler aussi bien et aussi librement, Émilie. Vous embrasserez Thibaut et Louise pour nous. Prenez bien soin de vous. Vous nous appeliez depuis le Var.
Merci.
Et là, on va donner la parole à un jeune papa aussi, mais qui va venir avec son lot d'informations sur ses bébés de chaque jour. Et en ce moment, pas trop joli à regarder, les bébés. On va parler du confinement, du reconfinement, je ne sais pas, avec Olivier Bois pour les informations. Merci Émilie, l'info c'est tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Allez, on se lâche. On les aime nos enfants, mais on peut se dire la vérité. Marc nous écrit, j'adore ma fille, je l'adore, mais je trouve les enfants très ingrats après tout ce que l'on sacrifie pour eux. Elle ne m'appelle que lorsqu'elle a besoin d'un service, je vois bien que ça l'ennuie quand je lui demande de la voir ou de discuter avec elle. Ce n'est pas vraiment ce que j'imaginais quand elle est venue au monde. Il faut le savoir. Alexandre Marcel, Nicole Prieur, il faut l'accepter et quelque part, est-ce que nos enfants nous doivent quelque chose ?
Écoutez, hier, j'avais une journée de formation auprès d'autres psys sur la parentalité. Et il y a une phrase que je dis en général quand je fais une conférence et que j'ai donnée hier exactement, qui reprend ça. Les parents donnent sans compter à des enfants qui ne cessent de compter ce qu'ils n'ont pas. reçu. C'est et vrai. De toutes les manières, si vous comptez effectivement recevoir à la hauteur de ce que vous avez donné, ça sera jamais, c'est impossible. C'est impossible.
Et puis, est-ce qu'il faut exiger un retour?
Non, au contraire.
C'est surtout ça, en fait. Je pense dans la façon dont on aborde notre rôle de parent, on donne, mais est-ce qu'il faut déjà, nous, avoir à l'esprit que notre enfant nous doit quelque chose? Ça me dépasse, moi.
Il faut les libérer, si on veut. Effectivement, du poids de la dette. Ils le sont déjà, énormément. Quand ils voient qu'effectivement on est fatigué, quand ils nous voient galérer pour le travail, quand on nous voit courir, ils sentent effectivement qu'on fait beaucoup pour eux. Il n'y a rien de tel, quand je recevais des petits-enfants en thérapie, si vous voulez, effectivement, je leur disais, tu n'as pas à porter, tu n'as pas à te préoccuper de tes parents, et tu n'as pas à te préoccuper, tu n'as pas à entendre qu'ils se sacrifient pour toi.
Mais non, mais surtout
parce
pas,
que c'est un
que
choix.
C'est faire peser un poids.
C'est ça.
À propos de sacrifice, Sandrine, ce que je vais dire est politiquement incorrect, mais avoir des enfants, c'est sacrifier parfois ses plus belles années. J'aime les miens plus que tout, mais ça a un prix, l'oubli de soi, et ça, on n'y est pas forcément préparé.
Oui, mais en même temps, il faut admettre aussi ce qu'on reçoit. Je veux dire, j'adhère complètement au fait qu'on a le droit de dire qu'on en a ras-le-bol plus d'une fois. Et de toute façon, il vaut mieux leur dire, il vaut mieux que ce soit clair. Parce que du coup, comme ça, on purge en quelque sorte les affects et on passe à autre chose. Et je pense qu'ils ont besoin que ce soit, qu'on soit clair. Ils nous testent sur la légitimité que l'on a, sur notre crédibilité. Hein, s'ils voient qu'on triche, qu'on leur dit, viens mon petit chéri, alors qu'on n'en peut plus. Plus, ça ne passera pas. Donc effectivement, mais en même temps, il faut reconnaître tout ce qu'il nous apporte.
Totalement.
De négatif comme de positif.
Azilis va venir discuter avec vous, Alexandre Marcel. Bonjour Azilis.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL, Azilis. Merci d'être avec nous. Vous avez 26 ans, vous habitez Rennes, vous êtes illustratrice, graphiste et maman d'une petite Liana qui a 3 ans. Est-ce que vous envisagez que votre fille un jour fasse montre d'ingratitude quand elle sera plus grande à votre endroit?
Bah écoutez, oui, je l'envisage complètement, oui.
Parce que vous l'avez vous-même été vis-à-vis de vos parents, comme on l'a tous été, j'imagine, d'une façon ou d'une autre.
Oui, j'entends souvent mon père notamment me le dire, c'est ça. Vous parliez de dette il y a quelques instants, ça pourrait être ses mots en fait, me dire que.
Avec tout ce qu'on a fait pour toi.
Autant de temps pour ça. Voilà.
Ah ouais, avec tout ce qu'on a fait pour toi, ce qui est quand même la phrase qui tue. Hein. Pardon, je trouve moi, je trouve ça très. Très difficile. Bon, Azilis, vous êtes maman à plein temps, vous faites l'école à la maison pour votre fille. Bon, vous, c'est la totale, en fait. Hein. Vous devez trouver ce rôle parfaitement épanouissant.
C'est ça, c'est un investissement total, mais je l'ai vraiment choisi. Et chaque jour, je calcule vraiment que voilà, j'ai la chance de faire ce que je veux. Donc, on va dire que je vis bien les moments de fatigue et de colère, quoi.
Ce qu'il y a quand même de dingue, c'est que vous n'imaginiez pas forcément cette vie-là.
Non, c'est ça. Alors en fait, avant de devenir maman, je faisais pas du tout partie de ces jeunes femmes qui disaient la grossesse, la maternité. J'étais vraiment très très loin de ça. Moi, je suis la plus jeune de ma fratrie. Et en fait, j'étais plutôt... à idéaliser le côté businesswoman, je m'imaginais plus grande travailler et pourquoi pas avoir un enfant sur le tard.
D'accord, vous avez 26 ans. Hein. Je tiens à préciser. Aujourd'hui, c'est quel âge? C'est 30 ans, je crois, hein, pour le 29-30 ans pour le premier enfant. Donc vous avez 26 ans, donc c'est carrément à l'opposé. Et ben, est-ce que c'est pas ça aussi, Azilis, quelque part, qui fait que vous vivez super bien la situation? C'est que vous ne l'aviez pas idéalisé. C'est pas de ce côté-là qu'allaient vos ambitions?
Ben, je pense, oui. Je pense qu'en fait, j'ai eu l'opportunité aussi de me remettre en question, de prendre le temps de me remettre en question dans un monde, dans une société où en fait, on est toujours pressé. On nous parle du congé maternité et puis vite, il faut se remettre au travail. Moi, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de ce congé maternité à fond, de pouvoir réfléchir à ce que je voulais par la suite. Surtout d'avoir vraiment été épaulée par mon mari aussi, qui est un père en or et qui m'a vraiment suivi en fait dans mes souhaits qui changeaient, qui évoluaient.
Ça change tout, un père en or, hein, je pense. Hein.
C'est évident.
Ça change tout. On va se retrouver dans un instant. Azilis, Samuel va nous rejoindre et Alexandre Marcel va nous donner son point de vue. À tout de suite sur RTL.
La vie flamand sur RTL. La vie flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
C'est vrai, on n'a pas beaucoup de soleil en ce moment, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bienvenue sur RTL, on est ensemble jusqu'à 15h30. Azilis, vous êtes en ligne avec nous. Il y a du soleil à Rennes?
Non, aujourd'hui.
Bon, c'est bien ce que je dis, c'est phase à tout manger. On accueille Samuel sur cette antenne qui va nous rejoindre. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Vous êtes
merci
papa au foyer, ça me fait plaisir de vous entendre. Gaspard dort là, il fait la sieste?
Non, là il joue dans sa chambre tranquille, ce qui veut dire que je serai peut-être interrompu par une demande, mais ça devrait rouler.
Bah, vous lui passerez tatif la vie, il n'y a pas de problème,
voilà.
Je m'en occuperai de votre petit Samuel. Soyez le bienvenu Samuel sur l'antenne d'RTL. Vous avez entendu le témoignage d'Azilise. Comment est-ce que vous vivez, vous, votre rôle de parent? Est-ce que vous avez le sentiment, alors vous êtes père au foyer, j'imagine que c'est le rôle le plus épanouissant que vous ayez connu?
Bah oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que c'est une décision de devenir parent au foyer qui m'a rendu très heureux, qui me rend encore très heureux, même si là, l'année prochaine, le projet, c'est que Gaspard passe à l'école.
Ouais.
Il aura 3 ans et demi, donc ça sera plus exactement le même rôle. Mais en attendant, là, c'est 3 années de vrai bonheur qui viennent de se passer, donc je suis très heureux.
Vous auriez pu, vous, être père au foyer Alexandre Marcel?
Si j'avais pu, je pense que...
Parce que vous œuvrez pour le rallongement du congé parental.
Du congé paternité.
Du congé paternité, pardon.
Qui a été obtenu,
ouais.
Qui est passé à 28 jours.
Oui, vous avez œuvré, oui.
Moi, j'ai œuvré pour ça. Est-ce que c'est le Samuel que je connais ou pas juste...
Oui, c'est moi. Ah,
ça va, Samuel? En fait, il fait partie du collectif des papas.
Ah, d'accord, c'est drôle.
Donc on se connaît.
Ok, d'accord.
On a plus ou moins travaillé ensemble sur, ouais. Sur cette tribune pour le congé parental, enfin, par paternité.
Alors, est-ce que vous serez... Oh, ça y est. Le voilà, Gaspard. Il parle ou pas?
Ah,
bah, passez-le nous. Dis bonjour à la dame.
Là, il mange du chocolat, donc il va pas être très loquace.
Bon, on sait jamais. Allez-y, on essaye.
Tu veux dire bonjour, Gaspard? Je suis au téléphone avec plein de gens qui parlent des parents. C'est qui? Bah, alors,
c'est Flavie. Dis-lui, c'est
Flavie. Un garçon, ouais. Qui s'appelle Alexandre, une autre dame qui s'appelle Nicole. Et il y a plein de gens qui parlent de parentalité. Ça t'intéresse ou pas trop?
Non.
Ok.
On préfère manger son chocolat, quoi.
C'est clair.
C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir son point de vue sur la question, ce petit bonhomme de 3 ans, ce petit Gaspard. Non, mais je vous en prie. Alors, Samuel, est-ce que vous trouvez qu'on n'a pas, qu'on n'est pas assez prévenu, qu'on est un petit peu lâché dans la nature lorsque l'on est parent?
Bah, en fait, oui et non, parce que forcément, comme le dit très bien Alexandre, c'est vraiment, on arrive sur une autre planète, donc on est complètement désarmé malgré parfois la recherche d'outils et d'informations au préalable. Moi, c'est vrai que pendant la grossesse de mon épouse, on a lu, on s'est renseigné tout ça, mais en fait, il y a un moment où on peut pas se préparer à ce qui nous attend à 100%, et c'est bien que ça aide d'avoir des informations. On n'arrive pas à se préparer. Je pense que c'est un tel chamboulement que rien ne peut nous préparer complètement à cette épreuve, entre guillemets, même si c'est aussi un grand bonheur.
Alors, au bout de 3 ans, alors c'est intéressant que vous parliez d'épreuve. Au bout de 3 ans, est-ce que vous avez le sentiment que ça n'est qu'épanouissement? La vérité?
Non, c'est pas qu'épanouissement, la vérité, évidemment. Mais je pense que vous trouverez personne qui vous dira « Moi, depuis que je suis parent, je n'ai que des moments super heureux, super épanouissants. » Enfin voilà, après, tant mieux pour cette personne si elle existe.
D'accord. On est d'accord.
Mais bien sûr, il y a des moments difficiles, il y a des moments d'extrême fatigue, il y a des moments de grosse remise en question aussi. Surtout pour les parents comme moi, je pense, qui avons dédié une vraie. Enfin, comment dire, moi j'ai tout arrêté pour m'occuper de mon fils, donc à un moment, si je suis pas suffisamment bon, comme dirait Winnicott, je me dis, bah, au final, je lui gâche ses premières années, je suis pas suffisamment bon pour lui, pour son développement.
Il
y a cette remise en question qui peut être extrêmement lourde au quotidien et qui peut engendrer des moments un peu de spleen, de mauvaise ambiance à la maison. Et le tout, c'est de savoir rebondir derrière et de retrouver des petits moments simples.
Je vais vous lire à tous un message de Marlène. Et Azilie, je vous demanderai aussi votre point de vue. J'ai un petit garçon de 5 ans, je me sens très enfermée dans mon rôle de mère. Pour son équilibre, tout est structuré. Les heures de lever, de repas, du bain, des jeux, du coucher, la promenade au parc le week-end, les jours se suivent et se ressemblent. Mais pour mon équilibre à moi, qui ai besoin de renouveau, de liberté, c'est tout autre chose. Je n'ose en parler à personne de peur de passer pour une mauvaise mère. Azilie, c'est vrai que les journées se ressemblent un peu.
Alors je dirais oui pour certaines choses, pas du tout pour d'autres. Nous, dans notre cas, c'est vrai que du coup notre fille donc est en instruction en famille et en fait on a donc la liberté du temps, en fait du temps qui passe, on peut l'occuper à ce que l'on veut. Alors c'est vrai qu'en ce moment on est très limité par rapport au contexte.
De toute façon en ce moment tout se répète tout le temps. Hein.
Voilà, mais c'est vrai que nous en fait on a la liberté de vraiment faire toutes les activités qu'on veut dans la journée. Après, c'est vrai que pour ce qui est des activités adultes et uniquement adultes, oui, ça peut manquer en fait les interactions avec
des personnes,
d'autres adultes. Ouais. Avec, oui, c'est sûr que ça peut pas forcément être épanouissant dans nos vies de grandes personnes. Ça, c'est évident.
Vous voyez Samuel rester comme ça encore combien de temps, père au foyer?
Autant vous dire tout. À la base, moi aussi, j'avais ce projet d'instruction en famille parce que je trouve que c'est un système qui, quand on a la chance de pouvoir le pratiquer, permet un super développement et une liberté incroyable pour les enfants. Et d'ailleurs, juste au passage, puisqu'on en parle, c'est un système qui est menacé en ce moment par le projet de loi sur les principes dits de valeur républicaine. Et moi, je lutte pour que ce droit à la liberté d'enseignement soit préservé.
Voilà, c'est l'instruction
qui est en ligne, si vous voulez aller voir, pour qu'on soit tous libres. Et c'est vrai que moi, c'est un système que j'aurais voulu choisir. Le fait est que là, après 3 ans, je me sens pas l'énergie et je me sens pas les compétences de le faire. J'ai pas assez confiance en moi, peut-être aussi. Donc, je préfère laisser la main. Voilà, on a trouvé une école à pédagogie dite alternative, pas loin de chez nous, qui correspond à ce qu'on aurait aimé faire avec Gaspard. Donc, on va faire ça pour que moi aussi, je puisse développer d'autres projets, des projets personnels, professionnels.
Ouais, c'est ça. Je vous remercie en tout cas, Samuel Azilis, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous, à vos enfants,
merci.
Liana et Gaspard. Enfin, ce ne sont pas les enfants que vous avez ensemble. Enfin, bon, tout le monde s'est compris. Hein. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, tous les deux. On reprend notre conversation. Je vous embrasse. Cécile nous a laissé un message très intéressant. Ce sera tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Cécile nous écrit « Quand on veut des enfants, on imagine la grossesse, le bébé, mais on ne pense pas à la suite, l'enfance, l'adolescence, ce qu'on ne pourra plus faire pendant au moins 15 ans seul ou à deux. J'ai voulu intensément mes enfants, mais j'ai eu un coup de mou quand ma grande a eu 10 ans. 10 ans que je n'étais plus qu'une maman, cette sensation que je n'étais plus tout à fait moi, que je m'oubliais trop. Ma grande a plus de 15 ans, ça va mieux. Maintenant, je peux leur dire que parfois je ne suis pas à leur disposition et que je veux du temps pour moi. » On va se le dire aussi, hein, on va pas se mentir, vous n'avez pas encore connu ça, cher Alexandre Marcel, mais l'adolescence,
c'est terrible.
Nicole Prieur, est-ce que là, dans ces cas-là, c'est le rôle le plus épanouissant d'être parent? Je ne suis pas sûre.
C'est extrêmement dur parce que non seulement il y a déjà presque de la violence dans l'air, quand ça claque, quand les portes claquent,
etc. On passe un peu pour des vieux schnocks.
Il y a une remise en cause absolue qui est légitime et qui est intéressante. Il faut, encore une fois, si on cite Winnicott disait « Pendant que votre enfant est petit, vous semez des graines, à l'adolescence, vous récoltez une bombe. » C'est clair,
c'est tellement
ça. Mais non, mais il continue, il rajoutait quand même, c'est ça qui est formidable, il rajoutait, on demande aux parents de survivre. Il faut continuer à rester effectivement le plus possible droit dans nos bottes, même si on se remet en cause. Il y a vraiment quelque chose. Et les adolescents ont besoin de parents réactifs à ce moment-là. Surtout ne pas baisser les bras. Mais c'est, j'ai envie de dire, le mot qui me vient, c'est presque violent quand même.
C'est ultra violent.
Donc là, on en a marre. Vraiment, là,
Et on peut le dire, c'est pas épanouissant. On ne remet pas en question l'existence de nos enfants, mais il y a un moment où on aimerait.
Mais alors, paradoxe.
D'ailleurs, attends, c'est l'âge où on envoie les enfants parfois aussi en pension, quoi.
Oui. Mais paradoxalement, c'est peut-être à cet âge-là qu'on a peut-être le moins besoin. Enfin, il faut peut-être le moins leur dire ouvertement à eux.
Ouais.
Parce qu'ils sont extrêmement blessés, parce qu'en fait, ils sont très ambivalents. Ils viennent nous chercher, nous provoquer. Et en même temps, ils ont un tel besoin de notre amour
qu'il faut le leur donner.
Il faut le leur donner.
Et ne pas leur faire payer leur adolescence.
Pas trop leur dire qu'effectivement. Autant avec des jeunes enfants, pas de problème. Ça tient le coup. Autant les adolescents peuvent être extrêmement blessés. Il ne faut pas se laisser piéger par leurs airs bravaches, comme ça, sur deux. Ils sont très, très fragiles.
Et ils ont besoin.
Et ils ont besoin de
tendresse, parce qu'ils sont des gros bébés tout à coup.
Ah, exactement.
Hein. Ils viennent pleurer encore dans nos bras.
Exactement.
Vous envisagez la suite, Alexandre Marcel, justement, quand vous voyez votre petite Ambre qui a 2 ans. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Je ne m'attendais pas à ça, mais là, on parle de la petite enfance, la toute petite enfance.
Mais je pense que même quand on est parent de jeunes, très jeunes enfants, c'est important d'essayer de prendre du temps pour soi. C'est pas toujours simple. Enfin, je veux dire, moi, ma vie d'avant, c'était on part en week-end, on peut se le dire le vendredi soir ou même le samedi matin, on met 3 caleçons, une brosse à dents ou même pas la brosse à dents dans un sac et puis on part.
À la one again.
Là, c'est une expédition, on part sur la lune, quoi.
Oui.
Il faut le lait, il faut les couches, il faut. Donc, la vie est. Alors c'est drôle parce que la vie, elle est moins légère et en même temps, elle est aussi plus légère. Moi, je trouve, parce que l'éclat de rire de ma fille, je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais dans ce cadre-là, il faut essayer de s'accorder des moments à deux et ne pas culpabiliser de le faire. On va pas partir tous les week-ends en escapade, en amoureux, ça c'est sûr. Mais essayer de se le faire de temps en temps pour se ressourcer, se retrouver et arriver dans une meilleure forme et une meilleure condition. Parce que si on est tout le temps crevé, si on n'en peut plus, à un moment, la coupe, elle est pleine, quoi. Mmh. On va se mettre à crier sur son enfant, c'est pas bon pour lui, lui, il va se mettre à crier en retour et en fait, ça devient nocif, tout ça. Donc parfois, il faut juste se mettre un peu à l'écart, se ressourcer, se retrouver pour revenir avec un peu plus d'énergie et puis c'est
évident.
Mais dès le départ, il faut pas attendre effectivement de ne plus en pouvoir et de partir en week-end au motif qu'on est fatigué. En fait, non, il faut le faire dès le départ.
Il faut le donner vraiment comme ligne de mire enfin dans notre existence. Donner du temps pour soi, essayer d'avoir du temps pour soi, avoir un temps pour les week-ends pour le couple, c'est indispensable. Et surtout s'entendre dans le couple, parce que ce n'est pas si évident que ça. Même si on a quelqu'un, si on a des grands-parents qui peuvent nous soulager à ce niveau-là, quelquefois dans le couple, il y en a un qui ne n'accepte pas, qu'il se sent trop coupable finalement de laisser son enfant. Je pense qu'il y a aussi à ce niveau-là, au niveau du couple, un accord, un accordage à se faire, à se donner finalement pour justement s'autoriser à laisser surtout les jeunes enfants aux grands-parents, à des amis, etc.
Quand tu grandis, c'est moins problématique. Hein.
Oh oui, ça c'est moins facile.
Non, puis nous, c'est pour ça aussi qu'on s'est battu pour l'allongement du congé paternité, parce que laisser une maman qui vient d'accoucher, qui est épuisée, qui a peut-être eu une opération, s'occuper de tout après l'accouchement, mais nous, on trouve, enfin nous, avec le collectif de papas qui nous sommes engagés, on trouve ça mais aberrant. C'est pas déjà un congé maternité. Non, c'est pas un congé. Je veux dire, il y a rien de. Voilà, on se repose pas. Et le papa, il doit être là pour prendre sa part, quoi.
Votre livre, c'est Je ne m'attendais pas à ça aux éditions Larousse. Et je rappelle votre blog Papa Plume. Merci Alexandre Marcel d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, ma chère Nicole Prieur.
Merci.
L'hypnose pour simplifier les relations familiales avec 3 exercices audio à télécharger. On le retrouve chez Pocket. Et l'ouvrage dont vous me parliez, hors antenne.
Alors, c'était Grandir avec ses enfants, qui est réactualisé, réédité chez l'Atelier des parents. Qui est
très
une
bien.
Petite édition, mais qu'on l'en trouve.
C'est noté. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 14h30 sur RTL. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Je vous attends tous les dimanches dès 14h pour RTL Pop Ciné. Des jeux, des interviews, des chansons de films, pour tout savoir de l'actualité cinéma.
RTL Pop Ciné, présenté par Vincent Perrault, dès maintenant en replay sur RTL.fr.